Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Internationaux, le podcast qui donne la parole aux étudiants internationaux venus étudier en France à l'UGA. Dans cet épisode, Pauline, étudiante d'origine russe, nous parle de sa vie sociale à l'étranger. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode. Nous parlerons aujourd'hui de la solitude en mobilité internationale. Je m'appelle Ekaterina Rubtsov et je suis en Master 1 de l'LCER français-italien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Bonjour. Je m'appelle Paulina, j'ai 23 ans. Je viens d'une petite ville en Russie. C'est une ville qui s'appelle Rybinsk, qui est située dans la région d'Iaroslavl. Et en fait, en France, ici à l'UGA, je fais les études de Master 1, langue étrangère appliquée. Et mon parcours, c'est traduction spécialisée multilingue anglais-russe.
Très bien. Pour commencer, j'aimerais te demander de m'expliquer un peu quelles sont les principales différences entre ta vie sociale donc à Rybinsk ou dans d'autres villes où tu as vécu avant de vivre à Grenoble et donc ici à l'UGA.
Oui, en fait, je pense que ce n'est pas vraiment très utile de le comparer à ma vie sociale à Rybinsk parce que en fait, ça fait déjà pas mal d'années que je ne vis plus à Rybinsk. J'ai fait mon bachelor dans 4 ans d'études à Nijni Novgorod, c'était aussi un bachelor en traduction et interprétation. Par la suite, j'ai fait un an d'études à l'Université de Lorraine, à Nancy, et puis voilà, maintenant je suis à l'UGA. Mais en ce qui concerne la différence entre ma vie sociale en Russie et en France, je ne pourrais pas dire qu'il y a vraiment une grosse différence. Parce qu'en fait, en Russie, je sortais assez souvent avec mes amis, donc à peu près 2-3 fois par semaine, parce que sinon, quand même, mon programme était assez intense, on avait beaucoup de projets à rendre. Et à l'UGA, c'est pareil. Donc je sors aussi, pas super souvent, à peu près aussi 2, peut-être 3 fois par semaine. Mais c'est vrai que la charge ici est un peu plus grande parce que bon, on a beaucoup de choses à rendre, beaucoup de travaux à écrire.
Et ici, tu vis seule ou en colocation, en résidence étudiante?
Alors ici, je l'ai en appartement avec mon copain. Donc on vit ensemble.
D'accord. Et tu maintiens un contact régulier avec ta famille, tes amis?
Oui, tout à fait, surtout avec ma famille. On s'appelle super souvent, on utilise Viber, WhatsApp et puis d'autres moyens de communication aussi. Et je trouve que c'est très pratique parce que ça fait à peu près un an et demi que je n'étais pas en Russie. Donc ça fait longtemps et forcément, il faut quand même maintenir ses relations avec sa famille, c'est important. Donc oui, on s'appelle super souvent avec ma maman, avec mes grands-parents surtout, qui sont très intéressés ce qui se passe dans ma vie. Et en ce qui concerne les amis, donc forcément, il y a des amis avec qui je ne maintiens plus les relations, on ne s'écrit pas, on ne s'envoie pas des messages. Mais je pense que c'est quelque chose de très, très, très normal. Quand tu changes de pays, en fait, il y a aussi ton cercle social qui change. Donc ça, je pense que c'est plutôt inévitable. Mais bien sûr, j'ai des amis avec qui on s'écrit régulièrement aussi sur Instagram et puis sur Vkontakte, sur pas mal d'autres applications. Donc je dirais que le fait de devoir entretenir ces relations avec ma famille, avec mes amis, ce n'est pas compliqué. Mmh. Voilà. Grâce à Internet, c'est tout à fait possible.
D'accord. Et ici, ton cercle social, justement, il est composé d'étudiants français, internationaux, ou c'est plutôt des gens hors de l'université?
Alors, majoritairement, quand même, ce sont les étudiants, ce qui est normal, parce que je suis très impliquée dans ma vie étudiante. Et donc, je passe beaucoup de temps à l'université, à travailler sur des projets de groupe, juste à parler à mes amis ici, au sein de l'UGA. Sinon, oui, j'ai un autre cercle social aussi qui est composé majoritairement de mon copain, de ses amis. Si on veut faire des sorties ensemble, si on va quelque part, dans une soirée, etc. Et je dirais que c'est à peu près tout, je pense. Oui.
Et tu as rencontré des difficultés particulières pour créer des liens ici à l'UGA, que ce soit d'un point de vue de langue, de temps, ou de lieu de sociabilité, de choses comme ça?
Alors, je ne peux pas vraiment dire que j'ai eu des difficultés quelconques. Je pense que c'était plus ou moins facile. Donc, le premier jour, quand on est arrivé, c'était la pré-rentrée. Bien sûr que c'était compliqué au début. Enfin, ce n'était pas vraiment compliqué. C'était un peu gênant parce que du coup, tu arrives, tu découvres de nouvelles personnes, les gens que tu n'as jamais vus avant. Donc, forcément, moi, en plus, je suis un peu timide en soi. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de renouer ces relations avec les gens et tout. Mais en soi, ça va. Je dirais que par la force des choses, finalement, tu t'y fais et puis tu commences à communiquer.
Et est-ce que tu pourrais nous parler d'une expérience particulière que tu as eue qui met à jour une différence culturelle qui a pu te faire te sentir mise à l'écart ou mal à l'aise ?
Oui, bah, y a une chose qui semble peut-être un peu bête, mais c'est déjà la différence en ce qui concerne les habitudes alimentaires, je dirais, surtout quand il s'agit de prendre le repas à telle heure, ce qui n'existe pas vraiment en Russie. En Russie, l'heure du repas, ce n'est pas fixe. Donc, tu peux choisir quand tu veux manger, toi-même, ton rythme, tu suis justement ton rythme, tu manges quand tu veux. Et ce n'est pas pareil en France, surtout quand tu es invité quelque part par une famille et que, par exemple, tu dois manger à 16 heures un peu imposé, je dirais. C'est ça qui me met un peu mal à l'aise parce que finalement, si je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. Mais quand même, je dois me forcer du coup pour rester poli, pour répondre aux attentes des Français, etc. Voilà, donc je dirais surtout ça.
Et est-ce qu'il y a quelques éléments dont tu aimerais encore parler qui ont pu te faire te sentir seule ici en France ?
Oui, je pense que je pourrais justement parler de mes problèmes avec le titre de séjour. Ce n'est pas forcément des problèmes, quoique si, ce sont les problèmes, parce qu'en fait, quand tu postules, quand tu demandes le titre de séjour sur la plateforme dédiée à SFN, finalement, toi, on peut te poser des questions. Donc la préfecture, elle peut t'envoyer un message, d'envoyer encore des documents complémentaires si jamais il n'y en a pas assez. Sauf que toi, tu ne peux pas les contacter. Tu peux contacter que l'équipe technique. Donc, si jamais tu as un souci technique avec le site, mais par contre, tu ne peux pas poser tes questions que tu as à l'agent instructeur, tu ne peux rien faire. Et du coup, en fait, on doit avancer un peu à l'aveugle, on attend les réponses, on ne sait pas quand notre dossier sera traité, quand on aura notre réponse. Et c'est ça qui me met vraiment mal à l'aise, parce que ça fait déjà 5 mois que j'attends mon titre de séjour. Ça fait 5 mois qu'elle effectue cette instruction de dossier et c'est très pénible parce qu'en fait c'est une situation qui n'est pas du tout stable. Tu ne sais pas si tu pourras finalement partir par exemple, comme moi j'aimerais partir en Russie pour voir ma famille pour le nouvel an. Et ce n'est pas vraiment possible parce que si je viens en Russie et que mon titre de séjour actuel expire, je ne pourrai pas rentrer en France. C'est un gros problème, je dirais.
Et tu n'as pas encore trouvé de... Si tu parlais d'une association qui pouvait t'aider, mais à part ça, tu n'as pas trouvé de solution concrète pour l'instant.
Alors, j'ai cherché des informations sur Internet. De ce que j'ai compris, je peux me rendre moi-même à la préfecture pour poser une question. Mais après, déjà, ce n'est pas comme si j'avais plein de temps libre pour le faire, parce que j'imagine qu'il faudra quand même attendre pas mal de temps de ce que j'ai entendu déjà parler de la préfecture. Donc, c'est ça qui peut être compliqué. Mais oui, donc j'ai trouvé cette association, l'ISO, dont on a parlé. Et je suis allée les voir il y a quelques jours. J'ai demandé justement si quelque chose peut être fait dans ma situation, parce que ça fait vraiment pas mal de temps que j'attends mon titre de séjour. Et ils m'ont dit qu'ils allaient justement contacter la préfecture et demander plus de renseignements sur le sujet, de demander peut-être accélérer le traitement de mon dossier. Mais pour le moment, je n'ai pas trop de nouvelles et ça me stresse parce que du coup, il faut que j'achète les billets. En fait, plus j'attends, plus elles deviennent chères. Et je n'aimerais pas trop payer 1 000 euros juste pour aller en Russie non plus. Donc voilà, mais j'espère que ça va se résoudre très vite. J'espère, oui.
Et quel conseil tu pourrais donner à des étudiants qui hésitent à faire une mobilité internationale par peur d'un éventuel isolement social ?
Alors oui, je pense que je peux comprendre ces personnes-là parce que comme j'ai déjà dit, moi je suis assez timide, donc ça peut être compliqué pour moi, ça peut être un défi. Mais par contre, je trouve qu'il est très important de surtout rester ouvert. Donc si les gens viennent te parler, il ne faut pas se refermer, dire ah, « en fait non, je ne veux pas, je vais rester comme ça, tranquille, ne me touchez pas ». Je pense qu'il est vraiment très important de répondre aux questions qu'on te pose, d'essayer aussi de s'intéresser à la vie des gens, etc. Voilà, d'essayer de s'intégrer dans cette vie étudiante. En plus, à l'UGA, comme je pense qu'il y a pas mal d'autres universités, il y a quand même des associations qui existent qui aident justement les étudiants qui sont en difficulté par rapport à des questions quelconques à résoudre ces problèmes. Donc voilà.
Très bien.
C'est ça.
Je te remercie beaucoup, Pauline. Si je peux juste conclure un petit peu cet épisode. Il n'y a pas de solution universelle et imparable à la solitude, sinon on le saurait, mais néanmoins il existe un certain nombre de choses mises en place vers lesquelles les étudiants internationaux peuvent se tourner. Mm-hmm. Pour commencer, sur le site de l'UGA, on peut trouver les contacts du bureau qui s'occupe des étudiants internationaux, International Students and Scholar Office. Toujours sur le site, vous avez accès aux coordonnées de différents lieux d'écoute et de soutien psychologique, comme les psychologues du Centre de santé universitaire, les assistantes sociales du CROUS ou encore l'association de psychologues Aptitude. Le site Solidarité Grenoble répertorie certains lieux d'écoute qui se concentrent sur des situations spécifiques, notamment pour les étudiants LGBT par exemple. Mais par ailleurs, tout simplement, si on veut rencontrer de nouvelles personnes, l'université organise régulièrement des événements culturels et des ateliers, comme disait Pauline. C'est une option pour pouvoir rencontrer des gens sur les bases d'intérêts communs, comme des associations étudiantes qui sont présentes et visibles sur le campus. Un autre site bien utile est le site Ici Grenoble, dont vous pouvez, sur lequel vous pouvez vous tenir au courant de la vie culturelle, sportive, militante et associative très riche de Grenoble et trouver des lieux propices aux rencontres, à la réflexion et aux activités collectives. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.
Le podcast Internationaux vous a été présenté par Elsa, Edith, Katia, Lorraine, Julie et Marine, étudiantes en langue de l'Université Grenoble-Alpes. Nous voulons remercier l'équipe du Bureau de développement international et territorial pour son partenariat, ainsi que Pierre Renard de son travail de montage. Nous espérons que cet épisode vous a plu et nous vous remercions de votre écoute. Ciao !